Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue pour ce 58e épisode des Yeux ont des oreilles. Et en cette fin de décembre, on vous a préparé un épisode spécial Noël. Alors laissez-vous porter par nos voix, par les plumes étrangères et leurs traductions de Dickens, de Jean Eggland, de Selma Lagerlöf, par la poésie de Carême, Verlaine ou encore d'Yves Bonnefoy, de Jean Richepin, et enfin par l'aventure du Grand Moulin.
Partîmes sous la neige, dans un silence absolu. Maule marchait en avant, projetant la lueur en éventail de sa lanterne grillagée. À peine sortions-nous par le grand portail que, derrière la bascule municipale qui s'adossait au mur de notre préau, partirent d'un coup, comme perdre au surpris, deux individus encapuchonnés. Soit moquerie, soit plaisir causé par l'étrange jeu qu'ils jouaient là, soit excitation nerveuse et peur d'être rejoints, ils dirent en courant deux ou trois paroles coupées de rire. Maule ne laissa tomber sa lanterne dans la neige en me criant « Suis-moi, François !» Et laissant là les deux hommes âgés, incapables de soutenir une pareille course, nous nous lançâmes à la poursuite des deux ombres, qui après avoir un instant contourné le bas du bourg, en suivant le chemin de la vieille planche, remontèrent délibérément vers l'église. Ils couraient régulièrement, sans trop de hâte, et nous n'avions pas de peine à les suivre. Ils traversèrent la rue de l'église, où tout était endormi et silencieux. Ils s'engagèrent derrière le cimetière, dans un dédale de petites ruelles et d'impasses. À chaque tournant, nous craignions de les perdre. Mais à ma surprise, nous arrivions toujours au détour de la ruelle suivante avant qu'ils l'eussent quittée. Je dis « à ma surprise », car le fait n'eût pas été possible tant ces ruelles étaient courtes s'ils n'avaient pas, chaque fois, tandis que nous les avions perdues de vue, ralenti leur allure. Enfin, sans hésiter, ils s'engagèrent dans la rue et je criai à Maulne « Nous les tenons, c'est une impasse !» À vrai dire, c'était eux qui nous tenaient. Ils nous avaient conduits là où ils avaient voulu. Arrivés au mur, ils se retournèrent vers nous résolument et l'un des deux lança le même coup de sifflet que nous avions déjà entendu par deux fois ce soir-là.
La neige à travers la brume tombe et tapisse sans bruit le chemin creux qui conduit à l'église où l'on allume pour la messe de minuit. Londres sombre flambe et fume. Oh, la chair qui s'y cuit et la boisson qui s'ensuit. C'est Christmas et sa coutume de minuit jusqu'à minuit. Sur la plume et le bitume, Paris bruit et jouit. Ripaille et plaisant déduit sur le bitume et la plume s'exaspère des minuits. Le malade en l'amertume de l'hospice où le poursuit un espoir toujours détruit s'épouvante et se consume dans le noir d'un long minuit. La cloche au son clair d'enclume dans la tour fine qui lui, loin du péché qui nous nuit, nous appelle en grand costume à la messe de minuit.
Bonjour. Le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël. Le vieux Scrooge était assis, fort occupé dans son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant. Le temps était brumeux. Scrooge pouvait entendre les gens aller et venir dehors, dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine avec les mains et tapant des pieds sur le trottoir pour les réchauffer. 3 heures seulement venaient de sonner aux horloges de la cité. Et cependant, il était déjà presque nuit. Il n'avait pas fait clair de tout le jour. Les lumières qui paraissaient derrière les fenêtres des comptoirs voisins ressemblaient à des taches de graisse rougeâtre qui s'étalaient sur le fond noirâtre d'un air épais et en quelque sorte palpable. Le brouillard pénétrait dans l'intérieur des maisons par toutes les fentes et les trous de serrure. Au dehors, il était si dense que quoique la rue fût des plus étroites, les maisons en face ne paraissaient plus que comme des fantômes. À voir les nuages sombres s'abaisser de plus en plus et répandre sur tous les objets une obscurité profonde, on aurait pu croire que la nature était venue s'établir tout près de là pour y exploiter une brasserie montée sur une vaste échelle. « Je vous souhaite un gai Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» cria une voix joyeuse. C'était la voix du neveu de Scrooge, qui était venu le surprendre si vivement qu'il n'avait pas eu le temps de le voir. « Bah !» dit Scrooge, « sottise !»« Noël, une sottise, mon oncle ?» dit le neveu de Scrooge. « Ce n'est pas là ce que vous voulez dire, sans doute. »« Si fait !» répondit Scrooge. « Un gai Noël ? Quel droit avez-vous d'être gai ? Quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses ? Vous êtes déjà bien assez pauvre. » « Allons, allons !» reprit gaiement le neveu. « Quel droit avez-vous d'être triste ? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses ? Vous êtes déjà bien assez riche. » « Bah !» dit encore Scrooge, qui pour le moment n'avait pas une meilleure réponse prête. Et son « bah » fut suivi de l'autre mot « sottise ».« Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle !» fit le neveu. « Et comment ne pas l'être ?» reprit l'oncle. « Lorsqu'on vit dans un monde de fous tel que celui-ci, un gai Noël, au diable vos gai Noël. Qu'est-ce que Noël si ce n'est une époque pour payer de l'échéance de vos billets, souvent sans avoir d'argent ? Si je pouvais en faire à ma tête, continua Scrooge, d'un ton indigné, tout imbécile qui court les rues avec un gai Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans la marmite, avec son propre pudding, et enterré avec une broche de houx au travers du cœur. C'est comme ça. Mon oncle, dit le neveu, voulant se faire l'avocat de Noël. Mon neveu, reprit l'oncle sévèrement. Fêtez Noël à votre façon, et laissez-moi le fêter à la mienne. Fêtez Noël ? Répondit le neveu de Scrooge. Vous ne fêtez pas Noël, mon oncle. Alors laissez-moi ne pas le fêter, grand bien puisse-t-il vous faire. Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner demain chez nous. Scrooge dit qu'il voudrait le voir au... Oui, en vérité, il le dit. Il prononça le mot tout entier, et dit qu'il aimerait mieux le voir au... Le lecteur finira le mot si cela lui plaît. « Mais pourquoi ? » s'écria son neveu. « Pourquoi ? Pourquoi vous êtes-vous marié ? » demanda Scrooge. « Parce que j'étais amoureux ?»« Parce que vous étiez amoureux ?» grommela Scrooge. « Comme si c'était la plus grosse sottise du monde après le gai Noël. Bonsoir. »« Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant mon mariage. Quoi vous en faire un prétexte pour ne pas venir maintenant ?»« Bonsoir, » dit Scrooge. « Je ne désire rien de vous, je ne vous demande rien. Pourquoi ne serions-nous pas amis ?»« Bonsoir, » dit Scrooge. « Je suis peiné, bien sincèrement peiné de vous voir si résolu. Nous n'avons jamais rien eu l'un contre l'autre, au moins de mon côté. Mais j'ai fait cette tentative pour honorer Noël, et je garderai ma bonne humeur de Noël jusqu'au bout. Ainsi, un gai Noël, mon oncle. « Bonsoir, » dit Scrooge. « Vous souhaitez aussi la bonne année ?»« Bonsoir, » répéta Scrooge.
Première neige tôt ce matin. L'ocre, le vert se réfugie sous les arbres. Seconde, vers midi, ne demeure de la couleur que les aiguilles de pin, qui tombent, elles aussi, plus drues parfois que la neige. Puis, vers le soir, le fléau de la lumière s'immobilise. Les ombres et les rêves ont même poids. Un peu de vent écrit du bout du pied un mot hors du monde. Hier encore, les nuages passaient, au fond noir de la chambre, mais à présent le miroir est vide. Neiger se désenchevêtre du ciel. 5 heures, la neige encore. J'entends des voix à l'avant du monde. Une charrue, comme une lune au troisième quartier, brille, mais la recouvre, la nuit d'un pli de la neige. Et cet enfant a toute la maison pour lui désormais. Il va d'une fenêtre à l'autre, il presse ses doigts contre la vitre. Il voit des gouttes se former là où il cesse d'en pousser la buée vers le ciel qui tombe. À ce flocon qui sur ma main se pose, j'ai désir d'assurer l'éternel en faisant de ma vie, de ma chaleur, de mon passé, de ces jours d'à présent, un instant simplement. Cet instant-ci, sans borne. Mais déjà il n'est plus qu'un peu d'eau qui se perd dans la brume des corps qui vont dans la neige. Et que faut-il penser de ces pommes jaunes ? Hier, elles étonnaient d'attendre ainsi, nues, après la chute des feuilles. Aujourd'hui, elles charment, tant leurs épaules sont, modestement, soulignées d'un ourlet de neige. J'avance dans la neige, j'ai fermé les yeux, mais la lumière sait franchir, les paupières poreuses, et je perçois que dans mes mots, c'est encore la neige, qui tourbillonne, se resserre, se déchire. Neige, l'être que l'on retrouve et que l'on déplie, et l'encre en a blanchi, et dans les signes, la gaucherie de l'esprit est visible, qui ne sait qu'en enchevêtrer les ombres claires. Et on essaye de lire, on ne comprend pas, qui s'intéresse à nous dans la mémoire, sinon que c'est l'été encore, et que l'on voit sous les flocons les feuilles et la chaleur monter du sol absent, comme une brume.
Nous sommes assis autour de la grande table à rallonge, soir de réveillon à Marbacca. Pas à l'une des extrémités, maman à l'autre. Oncle Wackenfeld est là aussi, à la place d'honneur, à côté de papa, et tante Lovisa, et Daniel, Anna, Gerda et moi. Comme toujours, Gerda et moi sommes assises de part et d'autre de maman, parce que nous sommes les plus jeunes. L'image reste très claire dans mon esprit. Nous avons déjà mangé la morue à la lessive, le riz au lait et les millefeuilles. Assiettes, cuillères, couteaux et fourchettes ont été débarrassés, mais la nappe est restée. Les deux bougies à plusieurs branches, fabriquées maison, brûlent dans des candélabres au milieu de la table, entourées de la salière, du sucrier, de l'huilier et d'un gros cruchon en argent rempli à ras-bord de bière de Noël. Le repas étant terminé, nous devrions quitter la table, mais ce n'est pas le cas. Nous restons assis dans l'attente de la distribution des cadeaux de Noël. Nulle part ailleurs dans la région qu'à Marbacca, on distribue ainsi les cadeaux de Noël après avoir mangé le riz au lait traditionnel. Mais à Marbacca subsistent d'anciennes coutumes, et qui nous conviennent. Rien ne peut égaler cette attente qui, des heures durant, tout au long de la veille de Noël, se prolonge parce qu'on sait que le meilleur reste à venir. Le temps s'écoule lentement, très lentement. Nous sommes convaincus que les autres enfants qui ont reçu leur cadeau vers 7 ou 8 heures n'ont pas éprouvé cette jouissance qu'est la nôtre en ce moment, en cet instant tant attendu et qui, enfin, arrive. Les yeux brillent, les joues s'enflamment, les mains tremblent lorsque la porte s'ouvre pour laisser entrer les deux domestiques déguisés en boucs de Noël et qui traînent deux grosses hottes pleines de paquets jusqu'à la place de maman. Puis maman en extrait un paquet après l'autre, sans se presser outre mesure. Elle lit le nom du destinataire, court avec difficulté les verres rimés gribouillés qui accompagnent les cadeaux, et enfin, étend. Pratiquement muet durant les premiers instants, tandis que nous brisons les seaux et déplions les papiers, nous poussons bientôt l'un après l'autre un cri de joie. Nous parlons, rions, examinons l'écriture sur nos paquets, comparons nos cadeaux et laissons la joie nous envahir. Réveillon auquel je pense en ce moment, je venais d'avoir 10 ans et je suis assise à la table de Noël aussi impatiente et tendue qu'on peut l'être. Je sais si bien ce que j'aimerais recevoir. Il ne s'agit ni de beaux tissus pour confectionner des robes, ni de dentelles ou de broches, ni de patins à glace ou de friandises, non. Il s'agit de toute autre chose, pourvu que quelqu'un ait l'idée de me l'offrir. Le premier cadeau que je sors de son emballage est une boîte à ouvrage et je comprends immédiatement qu'il est de maman. La boîte contient de nombreuses petites cases à l'intérieur desquelles elle a rangé des paquets d'aiguilles, de la laine à repriser, un écheveau de soie noire, de la cire et du fil. Maman tient sans doute à me rappeler que je devrais essayer de faire des progrès en couture et pas seulement songer à la lecture. Anna m'offre une petite pelote à épingle très joliment galonnée et qui s'adapte tout à fait à une des cases de la boîte à ouvrages. Tante Lovisa me fait cadeau d'un dé à coudre en argent et Gerda a brodé un petit modèle d'initial qui me permettra dorénavant de marquer moi-même mes bas et mes mouchoirs. Aline et Emma Laurel sont rentrées chez elles à Karstadt, mais elles ont pensé à moi et à nous tous. De la part d'Aline, on me tend de petits ciseaux de brodeuse rangés dans un étui qu'Aline a confectionné elle-même, à partir d'une pince de homard et d'un coupon de soie. Emma m'offre un petit hérisson de laine rouge, bardé d'épingles en place de ses piquants. Toutes ces petites choses que je viens de recevoir sont avant tout pratiques et je commence à m'inquiéter. J'ai là tout ce qu'il me faut pour la couture. Si jamais je ne recevais pas ce que j'espère. Car il me faut expliquer comment les choses se passent à Marbacal le soir du réveillon. On a le droit de tirer une petite table au chevet de son lit et d'y poser une bougie. Puis l'on a le droit de lire aussi longtemps qu'on le désire. Et cela constitue le plus grand des plaisirs de Noël. Rien ne peut surpasser le bonheur de se retrouver là, avec dans les mains un livre plaisant reçu en cadeau de Noël, un livre qu'on n'avait jamais vu auparavant et que personne d'autre dans cette maison ne connaît non plus, et de savoir que l'on pourra en lire les pages l'une après l'autre pour autant que l'on sache rester éveillé. Mais que faire durant la nuit de Noël si l'on n'a pas reçu de livre? C'est à cela que je pense, tandis que, un élément après l'autre, je découvre mon nécessaire de couture. Les oreilles commencent à s'échauffer. Assurément, il s'agit là d'une véritable coalition. Et si jamais je ne recevais pas de livre de Noël, Daniel m'offre une délicate aiguille à crocheter en os, Johan une jolie petite plaque à enrouler les écheveaux. Pour finir, papa me présente un gros cadeau, un tambour à broder qu'il a commandé à l'excellent menuisier d'Ascarby. Parfaitement identique, m'explique-t-il, à celui que ses sœurs utilisaient quand elle et lui étaient petits. « Tu deviendras certainement une excellente couturière, » me dit maman, « avec toutes ces jolies choses qu'on t'a offertes. » Les autres rient. On voit à mon air que les cadeaux reçus ne me satisfont pas pleinement et tous ont sans doute trouvé qu'ils m'ont joué un bon tour. La distribution tire à sa fin et avec ces cadeaux reçus, je ne peux guère m'attendre à plus. Tante Lovisa a reçu un roman et deux almanachs, le Svea et le Nornan. Je profiterai certainement moi aussi un jour, et que ma tante lira en premier. Oh non, ce n'est pas simple d'avoir l'air gai et de prendre son parti d'une telle situation. Maman sort le dernier paquet de sa hotte à cadeaux. Je comprends à sa forme qu'il s'agit d'un livre. Il ne sera bien évidemment pas pour moi. On a sans doute décidé d'avance que je n'aurai pas de livre. Le dernier paquet m'est adressé. Et pourtant, dès que je le tiens entre mes mains, je sens qu'il s'agit bien d'un livre. Je rougis à l'instant, et dans ma précipitation pour emprunter des ciseaux, je pousse presque des cris, je coupe la ficelle, j'arrache le papier à toute vitesse, et voilà que, devant mes yeux, le plus joli des livres, un livre de contes de fées. Je comprends en regardant l'image de la couverture. Je sens que tous autour de la table me regardent, ils savent bien sûr que ceci est mon meilleur cadeau, le seul qui me fasse véritablement plaisir. « Quel livre as-tu reçu ?» demande Daniel en se penchant vers moi. J'ouvre la couverture et reste bouche bée à regarder la page de titre. Je ne comprends pas un mot. « Fais voir !» dit-il. Puis il lit. « Nouveau conte de fées pour les petits-enfants par Madame la Comtesse de Ségur. » Il referme le livre et me le rend. « C'est un livre de contes en français, » me dit-il. « Tu vas avoir de quoi t'amuser. » Sur un semestre, Aline Laurel m'a donné des cours de français, mais maintenant que je feuillette les pages de ce livre, je n'en comprends pas un mot. Recevoir un livre en français est presque pire que de ne pas recevoir de livre du tout. J'ai du mal à retenir mes larmes, mais heureusement j'aperçois une des planches illustrées. Là, la plus charmante des petites princesses voyage dans une voiture attelée à deux autruches. Et sur le dos d'un des deux oiseaux chevauche un jeune page portant un chapeau décoré de plumes et une veste brodée d'armoirie. La princesse elle-même arbore de grandes manches bouffantes et un large col luxuriant. Les autruches sont coiffées de longs panaches et les rennes sont doublées d'épaisses chaînes en or. Rien ne saurait être plus gracieux. À mesure que je feuillette, je découvre alors un véritable trésor de planches illustrées sur lesquelles figurent de fières comtesses, des rois magnifiques, de nobles chevaliers, des fées étincelantes, d'abominables sorcières, de merveilleux châteaux enchantés. Non, on ne pleure pas quand on reçoit un tel livre, fut-il en français. Et durant toute la nuit de Noël, je reste allongé à contempler les images. Et surtout la première, celle des autruches, qui à elle seule suffit à distraire pendant des heures. Le jour de Noël, dès après la messe du matin, je sors un petit dictionnaire de français et me lance dans la lecture du livre. Ce n'est pas facile. J'ai jusque-là seulement étudié avec la méthode Grönlund. Si ces petits contes de fées parlaient du petit chapeau du grand homme ou du parapluie vert du bon menuisier, je comprendrais. Comment me débrouiller dans un tel texte en français se déroulant sur plusieurs pages? Le livre de contes commence ainsi. Il était une fois un roi. Qu'est-ce que cela peut pouvoir dire? Une heure au moins s'écoule avant que je sois capable de comprendre comment cela peut se traduire. Les dessins m'attirent, je veux savoir ce qu'ils représentent, je devine et je cherche dans le dictionnaire. Ainsi progresse, laborieusement, ligne par ligne. Quand vient la fin des congés de Noël, le joli petit livre m'enseignait plus de français que ce que j'aurais jamais assimilé en plusieurs années avec la méthode Aline Laurel, Grönlund.
La neige tombe, toute blanche dans la nuit brune.
La neige tombe en voletant.
Ô pâquerette, une à une.
Toute blanche dans la nuit brune.
Qui donc là-haut plume la lune?
Ô frais duvet, flocon flottant.
Toute blanche dans la nuit brune.
La neige tombe en voletant.
La neige tombe, monotone.
Monotonement par les cieux.
Dans le silence qui chantonne.
La neige tombe, monotone.
Elle file, tisse, ourle et festonne.
Un suaire silencieux.
La neige tombe monotone.
Monotonement par les cieux.
Thank you.
Joyeux Noël semi-païen, légèrement littéraire et très commercial, annonçait toujours notre père, le matin de Noël, quand, bien avant l'aube hivernale, Eva et moi faisions équipe dans le couloir, devant la chambre de nos parents. Tellement excités que nous ne tenions pas en place, nous les supplions de se lever, de descendre, de se dépêcher, tandis qu'ils bâillaient, s'obstinaient à enfiler leur peignoir, à se laver la figure et à se brosser les dents, même que notre père était particulièrement agaçant à faire du café. Après la pagaille et les éclats de rire entourant l'ouverture des cadeaux, venait le déjeuner, que nous trouvions tout naturel. Les coups de fil de l'autre parent, le messie de Handel qui sortait triomphalement du lecteur de CD. À un moment, dans l'après-midi, nous allions nous promener tous les quatre sur le chemin de terre qui aboutit à notre clairière. L'air frais et vivifiant et la forêt verte nettoyaient nos sens et nos palais. Et, lorsque nous arrivions au pont et étions prêts à faire demi-tour, notre père déclarait immanquablement « Voilà le vrai cadeau de Noël, donc de Dieu. La paix, le silence et l'air pur. Pas de voisins à moins de 6 km et pas de ville à moins de 50. Béni soit Bouddha, Shiva, Jéhovah et le service de forêt de Californie. Nous vivons tout au bout de la route. » Plus tard, une fois la nuit tombée, quand, dans la maison plongée dans l'obscurité, ne brillaient plus que les boules du sapin, Mère allumait les bougies de la pyramide de Noël, et nous nous tenions pendant un moment en silence devant le carrousel pour regarder les bergers, les rois mages et les anges tourner autour de la Sainte Famille. Ouais, disait notre père avant que nous dispersions pour grignoter la carcasse de la dinde et couper des tranches de pudding froid. C'est ça l'histoire. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Mais au moins, il y a un bébé au centre.
C'est l'heure d'allumer le carrousel ?
Demande-t-elle. Il fait nuit, mais tu crois vraiment qu'on devrait l'allumer ? Je n'arrête pas de me dire qu'on aurait peut-être intérêt à garder les bougies pour une urgence. Elle hausse légèrement les épaules.
C'est Noël, non ?
Le carrousel, en pain sculpté et laqué, est une crèche ronde à 3 étages, joyau de mes plus anciens et plus tenaces souvenirs de Noël. Il a été fabriqué en Chine, et, tous les ans, notre père se réjouissait de voir les bergers dans le costume sombre des paysans chinois. Les anges aux cheveux noirs, avec la même coupe au carré que les chinoises. Et tout le monde, le petit Jésus compris, avec d'élégance yeux bridés. J'espère que de notre côté, on leur envoie des bouddhas blonds, disait-il avec un plaisir ironique. Rien ne risque plus de briser le chauvinisme religieux qu'une économie de marché mondialisée. Eva désigne la table où attend le carrousel.
Prête ?
Demande-t-elle. Je hoche la tête, en m'efforçant de ne pas compter les minutes d'éclairage dont nous disposons avec ce qui reste de ces bougies. En m'efforçant de ne pas penser au moment où nous en aurons peut-être un besoin plus vital que ce soir. Eva enfonce une brindille de petit bois dans le charbon, et, quand elle s'enflamme, elle la sort du feu et la porte au carrousel. Avec l'extrémité de sa brindille, elle touche une par une les bouts de chandelle qui font le tour de l'étage du bas. Une par une, les mèches s'embrasent jusqu'à ce que 6 flammes ondulent dans l'air immobile. J'en ai le souffle coupé. C'est la première fois que nous voyons autant de lumière, le soir, depuis que la lampe à pétrole a rendu l'âme, en crachotant au printemps dernier. Cela change nos voix, donne à nos mots plus de rondeur et de douceur, et de plénitude, avec une pointe de crainte révérentielle. Pures et sans fumée, les flammes oscillent et bondissent comme des danseurs autour de leurs mèches noires et raides, et tout dans la pièce paraît chaud et tendre. Mes yeux s'emplissent de larmes, et je continue de fixer ces langues brillantes, ces pétales de feu. La cire fond, lui, et à mesure que la chaleur des flammes des bougies monte, les lames en bois au-dessus des anges captent le courant d'air chaud, et le carrousel entier se met en mouvement. Silencieusement, posément, les anges et les bergers et les moutons, les rois mages et leurs chameaux, chacun tourne autour d'une Marie, d'un Joseph et d'un enfant Jésus immobile. Nous regardons, muettes, tandis que tous nos Noëls ressurgissent, et que nous sommes submergés par un sentiment si fort que l'accepter est horrible, le refuser, impossible. Tu te souviens quand tu as demandé si Jésus était un garçon ou une fille, déjà Eva ? C'est une vieille blague de famille, qu'on ressortait à tous les Noëls, comme les décorations pour le sapin. Elle sourit et joue le jeu.
Maman avait dit que Jésus était un garçon, mais que c'était juste un accident. Elle avait dit,
Il aurait très bien pu être une fille.
Et alors, papa lui a demandé si dans ce cas, la Vierge Marie aurait pu être un garçon. Nous hochons chacune la tête. Nous sourions. Nous essayons chacune de nous attaquer à la difficile tâche de se remémorer le plaisir du passé, sans lui accorder d'importance dans le présent. L'une des bougies vacille. La femme crachote, se dresse à la recherche d'oxygène, puis s'affaisse sur elle-même. Le carrousel ralentit. Nous regardons en silence, fascinés par les ombres qui tournoient au plafond, par le frémissement des 5 dernières flammes, par la lente combustion et rotation des souvenirs.
« Je pense qu'elle se trompait »,
dit Eva, quand la seconde flamme s'affaiblit et finit par s'éteindre.
« Quoi ?»«
Jésus n'aurait pas pu être une fille. »«
Pourquoi pas ?»«
Les choses d'avant se seraient passées autrement. »«
Comment ?» je demande, impatiente de débattre d'une idée avec ma sœur. Elle hausse ses épaules, légèrement indifférente, légèrement agacée, toute son éloquence contenue dans ce geste et le mouvement de son corps. Je renonce à analyser. « Jésus-Eta, Jésus-Fina » dis-je avec esprit. Ma boutade ressemble tellement à une des plaisanteries de notre père qu'elle tombe à plat. Une autre bougie meurt et le carrousel s'arrête. Dans la lumière déclinante des 3 dernières flammes, les bergers s'agenouillent tranquillement parmi les moutons. Les rois mages tiennent avec raideur leur présent dans leurs bras en bois, plus éloignés que jamais de leur but. Marie et Joseph sont debout, au garde à vous, de part et d'autre de l'enfant en bois. Les bougies faiblissent en jetant un dernier éclat. L'ultime mèche tombe. La flamme s'évanouit. Noël est terminé.
Il a neigé. Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que le chaton noir croit rêver. C'est à peine s'il ose marcher.
Il a neigé dans l'aube rose, si doucement neigé que les choses semblent avoir changé.
Et le chaton noir n'ose s'aventurer dans le verger, se sentant soudain étranger à cette blancheur où se posent, comme pour le narguer, des moineaux effrontés.
Merci à vous d'avoir accepté de plonger avec nous dans cet épisode des yeux ont des oreilles spécial Noël. On espère que ça vous aura plu et on vous souhaite justement un joyeux Noël.